bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, là.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi 27 mai 2024.
Au programme, à l'international, on commencera par un point sur la situation en Palestine, puis on fera un bilan d'une année de guerre au Soudan.
Et au national, on reviendra sur le prochain décret qui va toucher l'assurance chômage. On parlera de la répression policière contre les écologistes en Île-de-France. Et on terminera sur la grande grève qui touche l'audiovisuel public.
Et au local, on aura un reportage sur la riposte trans à Lyon et une interview avec des camarades pour parler de ce qu'il se passe actuellement en Kanaky.
Et on commence tout de suite avec les brèves.
Ce vendredi 24 mai se tenait la deuxième édition du Carnaval des Pentes, appelée par une quarantaine de collectifs et associations d'obédience antifasciste, antisexiste, antiraciste, anticapitaliste, écologiste. Alors c'était une prévue pour être une grande fête sauvage contre les JO, la guerre à Gaza et les réformes de Macron. Évidemment, et comme l'année dernière, la préfète avait interdit l'événement et mis les grands moyens. Ce vendredi 24, donc, les Pentes étaient sous occupation policière, littéralement, dans la soirée, ce qui n'a pas empêcher plusieurs centaines de carnavaliers et carnavalières de défiler en fête et de manière déterminée, bloqués à différents endroits par les flics dans les Pentes, qui n'ont pas hésité à envoyer beaucoup de lacrymos ou chargés sur la fin de ce carnaval. Alors en cette période où la répression fait rage, ça faisait plaisir de voir que tout le monde ne baisse pas les bras.
Et hier, dimanche 26 mai, la police a évacué les militants pro-palestiniens qui occupaient depuis mardi dernier les locaux de l'ENS Paris. L'ENS avait été fermé jeudi pour éviter que l'occupation prenne de l'ampleur. Pourtant, les occupants ne bloquaient pas l'accès aux cours. Scénario similaire il y a quelque temps à l'école de hautes études en sciences sociales qui avait été occupée entre le 13 et le 15 mai avant évacuation policière puis fermeture administrative. On rappelle au passage qu'à Lyon aussi, il y a eu des occupations courtes à l'ENS et à Sciences Po qui elles aussi se sont faites expulser. Preuve que la solidarité en Palestine fait peur et qu'on veut à tout prix éviter les discussions, les projections, les conférences qui se tiennent lors de ces occupations abordant des sujets actuellement criminalisés en France. Pourtant, ce type de démonstration de solidarité et de moments de réinformation sur Israël et la Palestine sont plus que jamais nécessaires. On en reparle plus tard dans l'émission.
Le Fonds monétaire international a terminé jeudi dernier une mission d'évaluation de l'économie française. L'institution éternelle porte-parole du capitalisme mondial a appelé le gouvernement, je cite, à « prendre de nouvelles mesures pour réduire les dépenses publiques ». Le FMI enfonce donc le clou. Une fois encore de l'hypocrisie, le salaire d'entrée de ces économistes est de 100 000 dollars par an, soit au moins 7 600 euros par mois. ayant le statut de fonctionnaires internationaux, tous et toutes sont exonérés d'impôts, aucun ne contribue donc au service public. Mais c'est les mêmes qui osent dire qu'il y a trop de dépenses et qui soutiennent des réformes ultra-violentes comme celle de l'assurance chômage. L'arrogance de la bourgeoisie la tuera-t-elle ?
Et un masculiniste avait planifié une tuerie de masse à Bordeaux lors du passage de la flamme olympique jeudi 23 mai. Axel G, 26 ans, a été signalé à la division de la criminalité territoriale de Gironde suite à la publication sur Facebook d'un clip de rap faisant référence à Elliot Rodger, auteur d'une tuerie de masse aux États-Unis le 23 mai 2014, et d'un manifeste de 140 pages, My Twisted World, publié sur Internet quelques jours avant les faits, exposant ses motivations incel pour Involuntary Celibates, les célibataires involontaires, des masculinistes qui théorisent le fait que les femmes refuseraient aux hommes la sexualité à laquelle ils devraient avoir droit et les tiennent pour responsables de leur célibat durable. L'idéologie des incels est aussi imprégnée de suprémacisme blanc, estimant que les sociétés multiculturelles détournent les femmes blanches des hommes blancs. Lors de sa garde à vue, Axel G a confirmé son fanatisme autour d'Eliot Rodger, sa sympathie pour le courant incel et son aversion pour les femmes. Il a aussi évoqué un projet de tuerie de masse se terminant par sa propre mort prévue le 23 mai 2024 pour coïncider avec l'action de son idole Eliot Rodger. L'ouverture d'une information judiciaire a été requise par le parquet de Bordeaux pour apologie de crime et association de malfaiteurs avec réquisition de mandat de dépôt.
Et on passe tout de suite à...
International.
International. Avec un premier sujet sur ce qui se passe à Gaza.
Oui, alors près de Rafah, une nouvelle attaque fait particulièrement parler. Pourtant, c'est loin d'être la première puisque Tsahal y mène déjà des opérations au sol depuis le 7 mai. Mais cette fois-ci, c'est un camp de réfugiés qui a été visé. Un camp vers lequel avaient été dirigés les déplacés du sud de la bande de Gaza par l'armée israélienne elle-même, indiquant que c'est là-bas qu'il fallait se réfugier. Depuis le début des frappes aériennes, c'est essentiellement comme ça qu'Israël se défend de tuer des civils. D'ailleurs, l'armée prévient les civils, leur indique des endroits où se rendre pour éviter d'être touchés par les frappes. Donc, s'il y a des civils qui meurent sous les frappes, l'armée n'y est pour rien. Le raisonnement est déjà pas mal bancal, vous en conviendrez, puisqu'il n'est pas possible d'être en permanence mobile, dans des délais courts, ni forcément d'avoir accès à l'information. À savoir quand même, pour imaginer l'ambiance, qu'une des méthodes de l'armée israélienne pour prévenir les civils, c'est de tirer avec des armes dites non létales sur le toit des habitations, juste avant de lancer les vraies frappes donc létales. Bon, c'est pas la seule méthode utilisée, mais on peut douter que celle-ci puisse vraiment permettre aux civils de se mettre en sécurité. Bon, voilà pour le petit résumé des méthodes de Tsahal, mais là, le problème, c'est que ce camp ciblé aujourd'hui, c'est le fruit d'un déplacement organisé sous les instructions de l'armée. L'attaque étant très récente, on a pour le moment le compte que de 45 morts, sans compter les blessés, 45 personnes qui étaient là, donc je me répète un peu, mais bon, qui étaient là parce que déplacées sous les instructions de l'armée, et le décompte continue d'augmenter. On ne sait pas comment ne pas y voir une preuve supplémentaire de la volonté génocidaire de cette guerre. En vérité, Israël ne différencie pas les civils du Hamas, on vous en a déjà parlé dans d'autres sujets, et on le sait maintenant clairement de témoignages de soldats israéliens. En plus d'exterminer les humains, Israël extermine aussi... Pardon, j'ai perdu ma page... Aussi, toute possibilité de société palestinienne à Gaza, cherchant à éradiquer toute reconstruction possible. On parle donc aujourd'hui aussi d'une photo d'un soldat israélien posant devant une bibliothèque incendiée. Mais en plus des bibliothèques et des musées, il y a aussi les écoles. Par exemple, donc le ministère palestinien de l'éducation en recense plus de 300 détruites actuellement. Donc Israël détruit l'organisation sociale et culturelle qui s'était déjà difficilement reconstruite après avoir été détruite à plusieurs reprises déjà depuis le début de la création de l'État d'Israël. Face à ce qui se passe aujourd'hui, il y avait un rassemblement d'urgence organisé à Lyon tout à l'heure et on espère que vous y étiez nombreuses et nombreux. Une autre réaction que l'on peut signaler, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont annoncé que demain, ils reconnaîtront officiellement l'existence de l'État de Palestine. La liste atteindra donc 142 pays sur les 193 États membres de l'ONU. Macron, pour sa part, s'est contenté de signaler que la reconnaissance d'un État palestinien n'était pas un tabou pour la France.
Et toujours à l'international, on parle maintenant du Soudan.
Oui, cela fait maintenant un an que le Soudan est en guerre. puisque plus personne n'en parle dans les médias mainstream, on s'est dit ici que c'était l'occasion de faire un petit bilan de la situation. Alors rappelez-vous, tout commence avec la révolution soudanaise en décembre 2018. Donc là, pendant 8 mois, des millions de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre la vie chère, notamment le prix du pain, déclenchant donc un mouvement réellement révolutionnaire qui va aboutir à la chute du président dictateur Omar el-Béchir après 30 ans de règne incontesté. Pendant ces 8 mois donc, le mouvement a gagné tout le pays, le congrès national a été incendié, des centaines de personnes ont perdu la vie tuées à balles réelles, la place devant le siège des forces armées a été occupée jour et nuit par un sit-in gigantesque à Khartoum, et en avril donc, c'est l'armée qui renverse dans un premier temps le gouvernement. Commence alors une captation du pouvoir par la junte militaire. L'armée promet la mise en place d'un gouvernement civil sans jamais réaliser sa promesse. Alors que les manifestations se poursuivent et que le général Al-Burhan prend les rênes de l'État, les tractations donc entre d'un côté le conseil militaire, donc la junte militaire, et de l'autre l'Alliance pour la liberté et le changement, qu'on nommera l'ALC, qui représente la partie civile, et bien les négociations s'enlisent. Plusieurs fois reportées, la transition vers un gouvernement civil n'aura finalement jamais lieu. À la place, la répression du mouvement, elle, par contre, s'intensifie. En juin 2019, la junte au pouvoir donne l'ordre de disperser violemment le campement des manifestants et des manifestantes, donc devant le siège de l'armée à Khartoum. Cette évacuation est ultra violente. Les militaires brûlent les tentes installées par les manifestants, violent à tour de bras et tirent à balles réelles, faisant des dizaines de morts. En cause notamment, les forces de soutien rapide, une force paramilitaire menée par un certain Hemedi, dont on reparlera. Elles ont été créées en 2013, elles sont issues des milices Janjaweeds qui sont en grande partie responsables des massacres pendant la guerre du Darfour. Bref, en réaction à ce massacre et à ces centaines de morts sur la place lors de l'évacuation, l'ALC donc se retire des négociations et appelle cette fois-ci au renversement du régime de la junte militaire et à une grève totale. Après des mois de coupures d'internet et des arrestations massives, un semblant d'accord semble être trouvé qui prévoit la mise en place d'un parlement et d'un conseil de souveraineté. Mais l'accord est rejeté par l'armée de libération du Soudan et plusieurs points de désaccord persistent, notamment quant à l'immunité des putschistes. Les manifestations étudiantes, elles, reprennent de plus belle et les putschistes font à nouveau des dizaines de morts, notamment du côté étudiant. On arrive là à fin août 2019. Cette fois-ci, un conseil de souveraineté est enfin formé et prête serment, un semblant de transition démocratique voit alors le jour. Mais, c'était sans compter le coup d'état du général toujours le même Al-Burhan, mené cette fois-ci en octobre 2021 contre la composante civile du régime de transition qui devait donc permettre l'instauration d'une démocratie. 6 mois plus tard, sous la pression de manifestations de masse, le général Al-Burhan réouvre les négociations autour d'une transition civile. Mais là, ces discussions ont ravivé les tensions internes entre d'un côté donc ce général putschiste, Al-Burhan, et de l'autre côté son allié, Hemedi, à la tête donc de la milice des forces de soutien rapide qu'on nommera maintenant les RSF. Alors que les révolutionnaires civils, eux, demandent non seulement la dissolution de toutes les milices, mais aussi la constitution d'une seule armée unifiée, les RSF, elles, devenues aussi puissantes que l'armée, n'ont aucune envie d'être dissoutes et font donc sécession. On en arrive ici au 15 avril 2023, jour de la célébration de l'Aïd, jour où la guerre entre l'armée soudanaise et les RSF éclate à Khartoum. Pendant plus de 3 semaines, la capitale et plusieurs villes du Darfour et du Kordofan ont été soumises à des combats ininterrompus avec des bombardements de la part de l'armée et des tirs de la RSF. Les habitants ont rapidement témoigné sur les réseaux sociaux des cambriolages, des vols, des viols de la part des soldats, notamment de la RSF, mais aussi des militaires. Les Soudanais et les Soudanaises ont continué à quitter massivement leurs maisons pour aller depuis la capitale, notamment se réfugier en province, mais aussi vers l'Égypte, l'Éthiopie, le Tchad et le Sud-Soudan. Puis, en mai 2023, les RSF commettent cette fois-ci un massacre, le massacre de Al-Jenena, ville frontière avec le Tchad, située à l'ouest du Darfour. Massacre qui prolonge la triste histoire des génocides au Darfour qui ont lieu au début des années 2000 avec le soutien de l'armée et du gouvernement El-Béchir. Après des mois de guerre donc, en janvier 2024, un accord est signé entre plusieurs partis politiques soudanais et les RSF à Addis Abeba, malgré la large contestation des Soudanais. Cet accord signale une normalisation diplomatique inquiétante des relations avec les RSF. Depuis, l'armée a repris l'avantage, notamment grâce au soutien iranien. Alors comment qualifier cette guerre ? Une guerre civile ? Un combat d'égo entre 2 militaires ? Une guerre raciale ? Une guerre impérialiste larvée entre d'un côté l'Iran et le Qatar pour les ressources naturelles ? Ici, On ne le sait pas trop, mais dans tous les cas, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une guerre contre-révolutionnaire.
Et pour ponctuer ce sujet, on fait une petite pause musicale avec Collateral Damage, une chanson de Nubia, rappeuse soudanaise et britannique, en featuring avec MGN3.
They raised £300,000 to help out people in Sudan. I mean, you know, this is a cause which is, well, congratulations first of all for that, but this is a cause which is very, very close to your heart.
When you've lived in a place and you can see the injustice happening right in front of you. Right in front of you. There's a lot of things that happened that could have been stopped. Internationally, all I see silence. Foreign dick, which one is they riding? Hands to the sky, how do they survive this? My auntie went up in them flames, boy. She weren't gonna survive it, waiting for humanitarian aid that just weren't provided. Even the blind can see, even the blind can see the way we're divided. Trying to leave us hopeless, like what? You ain't all sit down, decided. Slave trade never ended, you reshaped it and revived it. The way the truth is hidden, it just isn't sitting right. Yeah, you call it civil war, it's anything but civil eye. Anyone in their right mind will shrink down and simmer right. Consider it the end of an era. Really, all I know is pain. How the hell you got us losing in a game that we didn't play? Civil war in Sudan, they ain't right to me. You gave the terrorists arms, sat down with you, and they dine with D. Couple questions I'm posing here. Politely, you got bullets with expiry, and I'm just thinking, like, why is me? Millions, you watch millions displaced, watching them so silently. Compare the government's response to Ukraine. Like you didn't crash your economy, fucking with Putin. Lebanon, Turkey, Syria, Yemen, Palestine, all this the point that I'm proving. And we got human rights, but best believe to them we ain't human.
الوضع تأزم الحال تبهدل ما في أي إحساس الظلم تمكن بتموت الناس كله عايز يحكم ما في أي إنصاف على حساب الشعب جامعة الخرطوم كل الطلبة محبوسين يوم ورا يوم لمصير منتظرين في حكومة كاسي ظالمة ما عرف شرع لديهي أضرها روحي مديك عاملين فيها مسلمين بيحتف الله أكبر بس هم مجرمين تتذكروا في القيادة لما كنا معتصمين شردونا قتلونا فرقونا باسم الدين
حرب هذا حرب
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est le Canu Info du lundi 27 mai et on passe tout de suite au...
National.
Et au national, on commence par un sujet sur la réforme de l'assurance chômage.
Ouais, ça y est, on connaît les détails du décret qui va toucher l'assurance chômage. Attention, ça envoie du gros gros lourd, c'est clairement l'attaque la plus vénère en termes de réduction des droits pour le régime général, mais aussi pour les seniors. Alors avant de rentrer dans les détails, rappelons quand même que depuis 2017 et l'arrivée de Macron au pouvoir, c'est la quatrième attaque. En 2019 d'abord, qui a été appliquée en 2021... Cette réforme avait durci les conditions d'accès à l'indemnité, faisant passer de 4 mois à 6 mois sur une période de référence de 24 mois, le temps de travail minimum nécessaire pour ouvrir des droits. Rien que sur cette mesure, plusieurs centaines de milliers de chômeurs et de chômeuses ont été sortis du régime de l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, et ont basculé dans le RSA, c'est-à-dire dans la pauvreté. Elle avait également réduit la durée maximale d'indemnité à 18 mois, contre 24 mois auparavant. Et pour finir, elle avait durci les modes de calcul de l'indemnité journalière, baisse qui avait impacté jusqu'à 50% de l'indemnité journalière. Il est maintenant fréquent, très fréquent même, de voir des chômeurs et des chômeuses avec des indemnités qui se rapprochent du RSA. Au moins 1,2 million de personnes avaient été concernées par cette réforme. Celle de 2023, la deuxième, elle est venue renforcer la réforme donc de 2019 en introduisant une modulation de la durée maximale d'indemnité et de la période de référence, vers le bas bien sûr, tant que le chômage était en dessous de 9%, ce qui est le cas d'ailleurs aujourd'hui selon le ministère du Travail. Et puis bien sûr, on en a déjà beaucoup parlé, donc on va pas beaucoup revenir dessus. L'immonde France Travail, avec ses fusions de plusieurs services, assurance chômage, RSA, emploi jeune, travailleurs handicapés, les croisements de fichiers, le renforcement des contrôles, le renforcement des moyens coercitifs, des sanctions, le conditionnement des indemnités chômage et du RSA à des activités hebdomadaires et la privatisation partielle de la gestion des attestations employeurs et des offres d'emploi. Tout ça appliqué entre 2024 et 2025, et même, selon une camarade de la CGT France Travail, il est même prévu que certains et certaines conseillers France Travail soient remplacés par de l'intelligence artificielle. True story. Alors voilà le tableau, l'idée elle est très simple et on le sait, l'État veut intégrer les plus précaires des chômeurs et des chômeuses de force dans le marché du travail, quel que soit le salaire ou les conditions de travail. On en connaît les conséquences, multiplication des travailleurs et des travailleuses pauvres, baisse des salaires et mettre la tête sous l'eau, c'est-à-dire plonger dans la pauvreté des millions de chômeurs et de chômeuses. Eh bien ce nouveau décret, puisque maintenant tout marche dorénavant par décret pour l'assurance chômage et que le gouvernement veut anéantir la gestion paritaire historique de l'UNEDIC, eh bien ce nouveau décret, il enfonce le clou, et pas qu'un peu. Au programme, et ce, à partir du 1er décembre 2024, donc très bientôt, on passera de 6 à 8 mois pour pouvoir bénéficier d'une allocation chômage sur une période de référence qui, elle, baisse de 24 à 20 mois. Ce sont donc, encore une fois, celles et ceux qui cumulent des CDD ou qui sont en intérim, par exemple, qui vont sortir purement et simplement du régime de l'assurance chômage et rester au RSA ou basculer au RSA. La durée maximum d'indemnisation, elle va passer de 18 mois à 15 mois. Et pour finir, les seniors, donc celles et ceux hein, qui subissent le plus avec une partie de la jeunesse, la violence patronale, donc ces seniors, ceux et celles qui ont plus de 53 ans aujourd'hui, se font littéralement laminer. Les 53-56 ans, cette tranche d'âge va complètement sortir du régime particulier qui leur permettait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, d'avoir des indemnités un peu plus longues, de 22 à 27 mois. Et les 57 ans et plus voient leurs droits diminuer d'une durée d'indemnité qui allait aujourd'hui jusqu'à 27 mois et qui sera diminuée à 22 mois. Tout ça n'est a priori pas terminé puisque le gouvernement a l'intention de réduire à 12 mois la durée maximum d'indemnité pour le régime général. C'est tout simplement hardcore. Alors que le budget de l'UNEDIC, hein, depuis les dernières réformes, est largement excédentaire et qu'il permettait déjà d'économiser 6,7 milliards d'euros. Ce nouveau décret va permettre d'économiser 3,6 milliards supplémentaires. Franchement, à quand l'insurrection ?
On enchaîne avec la grève dans l'audiovisuel.
Oui, jeudi et vendredi dernier, de nombreux salariés de plusieurs chaînes de Radio France étaient en grève contre France Média, le projet de fusion de France Télévisions, Radio France, l'Institut National de l'Audiovisuel et France Média Monde, qui doit être appliqué au 1er janvier 2026. La grève a été largement suivie par les petites mains et métiers de l'ombre de l'audiovisuel, mais aussi par des membres de l'encadrement, qui étaient plusieurs à être présents au rassemblement. Jeudi, les syndicats comptaient 90% de grévistes à France Inter, 70% à France Info et environ 65% à France Bleu. Sur les 44 stations de France Bleu, 37 étaient fortement impactées et 26 n'ont pas pu émettre de la journée. La direction de France Télévisions a annoncé 12% de grévistes, toujours jeudi, tous métiers confondus. Plusieurs rassemblements ont eu lieu jeudi dans de nombreuses villes et des piquets de grève ont été tenus devant les bureaux de certaines antennes. À Paris, un rassemblement a réuni plusieurs centaines de personnes, place de la République. Donc ce projet France Média devait être discuté le 23 et 24 mai à l'Assemblée nationale et la discussion est finalement reportée au mois de juin, peut-être plus tard. C'est un projet soutenu par les Républicains depuis bientôt 2 ans, qui est maintenant poursuivi par le gouvernement et qui consiste à la mise en place d'une holding qui réunira toutes les chaînes sous une même direction économique pour ensuite aboutir à une entreprise unique début 2026.
Les syndicats expliquent que ce mode opératoire risque de déstabiliser les équipes, de perturber les organisations de travail et de faire chanceler les audiences des chaînes, radio et plateformes de l'audiovisuel public. Le projet semble donc bien de resserrer la mainmise des politiciens au service du capital sur l'audiovisuel et puis ensuite de leur céder la direction. De telles opérations ont évidemment un but idéologique de contrôle renforcé de l'information et puis aussi un but austéritaire avec une menace dénoncée par les syndicats de suppression de nombreux postes. Ça concerne quand même 16 000 salariés. Donc avec le projet de fusion porté par Macron, les grévistes sont nombreux à dénoncer un projet de retour au monopole de l'information qui est comparé à celui de l'époque gaullienne qui était l'ORTF. Donc les grévistes remettent au goût du jour l'affiche de mai 68 sur La Police vous parle tous les soirs à 20h. Grève à suivre donc dans l'audiovisuel avec des précisions sur le calendrier de cette réforme d'ici juin.
Et pour finir au national, un peu de répression policière.
Tirs de grenades sur des personnes en fuite, des personnes tabassées dans la rue, armes de guerre braquées à quelques centimètres de la tempe d'une personne plaquée au sol, genoux sur la gorge. C'est un véritable ensauvagement qu'a connu la commune de Gennevilliers. À ceci près que c'est la police française qui est responsable de toutes les violences. Samedi 25 mai avait lieu une manifestation écologiste en banlieue parisienne contre le projet Green Dock. Une grande plateforme logistique bétonnée qui n'a rien de green, visant à renforcer les flux de marchandises à proximité de la capitale, engendrant toujours plus de trafic et de pollution. Le cortège alliait lutte sociale et écologiste, car les travailleuses et les travailleurs ont bien compris que la logistique est le secteur qui a le plus recours à l'intérim et qui provoque deux fois plus d'accidents du travail que la moyenne nationale. La mobilisation a rassemblé plus de 2000 personnes dans la bonne humeur jusqu'à ce que la police lance une attaque sauvage. Alors qu'une partie du cortège traversait le parc de la ville pour atteindre la zone logistique du port de Gennevilliers, des assauts à coups de grenades et de ballons caoutchouc ont été lancés, visant à terroriser et arrêter le maximum de personnes. 54 personnes ont été placées en garde à vue pour participation à un attroupement. La journée précédente, après une nasse policière ayant duré 8 heures, 175 personnes étaient placées en garde à vue lors d'une action contre Total qui tenait son assemblée générale le même jour. Deux personnes ont été déférées suite à ces arrestations de masse. Des agents de sécurité ont notamment repoussé les militants avec une lance à eau alors qu'ils essayaient d'entrer par un portique. En deux jours, le bilan est donc assez lourd pour les luttes écologistes. 224 interpellations en 24 heures en Ile-de-France pour briser les revendications visant à préserver la nature et le vivant. Rappelons qu'en 2023, Total a enregistré des profits de près de 20 milliards d'euros grâce à la vente de pétrole et de gaz, soit l'équivalent d'un tiers du budget consacré à l'éducation en France. Trois fois plus d'argent est allé dans la poche des actionnaires que dans les investissements pour produire de l'énergie considérée par Total Energy comme, je cite, « bas carbone », qui sont en réalité des énergies renouvelables et l'électricité produite dans des centrales à gaz fossiles. Patrick Pouyanné a été réélu vendredi lors de l'Assemblée Générale avec le soutien de 75% des actionnaires. Le rapport présentant la mise en œuvre de la stratégie pseudo-climatique de l'entreprise, qui prévoit d'augmenter notamment la production d'énergie fossile, a été approuvé avec 79% de votes favorables des actionnaires. Comme dirait l'autre, le seul responsable, c'est moi, qui viens de me chercher. À très bientôt, Patrick.
Et tout de suite, pour faire la transition avec notre reportage au local, on écoute Désastre de Mauve. Ou pas, si on écoute Désastre de Mauve.
Casquette, penbar, strass et flamme. Casquette, trom ou femme. Check l'étiquette, sorry j'ai la flemme. C'est quoi ces normes infâmes? J'ai perdu mon flegme. Nous sommes les Dan et les Kidam ou les Kidan. C'est monsieur, c'est madame, des rôles qui condamnent. Levons nos doigts, voilà l'occasion. Pour faire entendre les moins loquaces. Vida loca, comme chien de la casse. Parce qu'on ne rentre pas dans vos cases. Sortir de l'impasse, foutez-nous la passe. Brisons l'opacité, faites place aux entités de l'ombre, identités qui ne se dénombrent. Étoiles filantes dans la pénombre, libre de choisir leur prénom, de choisir leur pronom. Unique et rare, des êtres à part. Penses-tu que je rappe par hasard? Je souhaite qu'on brille dans le blizzard. High kick dans le bazar. Que se répande le bizarre. Que se répande le bizarre. Dans ce désastre, c'est la danse au désastre.
bégère. La mère patrie, une ville bergère. Que des moutons et ne vénèrent. Trop d'oppression, ils génèrent. La peur, les morts qui fédèrent. Souvent besoin de changer d'air. Ces sons d'infantiliser, on veut nous utiliser. Nous gâte de tranquillisant, besoin de fertilisant. Toutes les remarques enquillées par ceux que j'aime maquiller. J'aimerais pouvoir m'habiller sans les écouter m'habiller. Bla 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 bla, faut déjà oser. Ce n'est pas aisé sans stresser, sans choper la nausée. La crainte de finir adossé, cabossé sur la chaussée. Un sourire forcé, tous ces gens qui abusent. Je mâche mes doutes dans ma caboche, puis cache mes boucles dans ma capuche. Le cul entre deux chaises, est-ce que t'as capi? Je ne suis pas un supporter. Je me assise par terre. Danse des astres, c'est la danse des astres.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 et on vient d'écouter Désastre de Mauve et on passe tout de suite à notre rubrique
locale.
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 Et au local, on écoute un petit reportage sur la manifestation Riposte Trans Lyonnaise qui avait lieu samedi.
Aujourd'hui, c'était la manifestation lyonnaise de la Riposte Trans. La Riposte Trans, c'est un appel à manifester au niveau national, à l'appel des organisations du mouvement progressiste et du mouvement social, contre une loi déposée par les sénateurs LR et une loi déposée par les députés FN, qui vise à interdire les transitions de genre pour les mineurs.
On n'en veut pas ! LR, la loi, on n'en veut pas ! LR.
Et cette Riposte Trans, elle demande aussi de nouveaux droits. Ces nouveaux droits, pour nous, c'est le changement d'état civil libre et gratuit sur simple demande. C'est le remboursement des transitions. C'est la possibilité d'être respecté dans son genre tel qu'on est.
Il y en a assez de sociétés qui ne respectent pas les trans, les gouines et les pédés. Il y en a assez de sociétés.
Alors nous, on a répondu à l'appel national et très rapidement, il y a une assemblée générale qui s'est organisée samedi dernier. Très vite, on est venu sur l'idée de faire une manifestation pour suivre le mouvement national qui a lieu ce week-end, le 25 et le 26. On a organisé cette manifestation en une semaine, en appelant au maximum les organisations diverses et variées, que ce soit syndicats, associations, collectifs, à se joindre à nous. Et aujourd'hui, on est très contents et contentes de voir qu'il y a plus d'une vingtaine de signataires au niveau lyonnais, qu'il y a des organisations qui nous ont suivis, des organisations syndicales, des associations sociales qui sont aujourd'hui dans la rue avec nous, derrière nous et qui participent au mouvement.
Nous dénonçons les prises de position transphobes et scientifiquement fausses de professionnels de santé qui sont trop souvent relayés dans les médias et dans les institutions médicales. Nous déplorons que ces personnes profitent de leur statut pour diffuser et légitimer ce qui n'est rien d'autre qu'une idéologie réactionnaire.
On n'en veut pas, transphobe, ferme-la. Ton avis, on n'en veut pas, transphobe, ferme-la.
Une prise de parole transphobe qui évoque une soi-disant épidémie de transition chez les jeunes, qui serait soi-disant influencée par les réseaux sociaux, ne repose sur aucune donnée scientifique. Les discours alarmistes sur les risques de regret des transitions oublient de mentionner que les détransitions sont presque toujours dues à la pression familiale, à la stigmatisation, mais aussi à un suivi médical insuffisant ou maltraitant, et parfois des techniques opératoires mal maîtrisées.
Nous, on est une association qui s'appelle Pour une Meuf, pour une médecine engagée, unie et féministe. On est une asso en fait, de soignants, soignantes féministes qui s'engagent pour à la fois lutter contre le sexisme et toutes les discriminations dans les milieux du soin, et aussi pour lutter contre le sexisme à l'intérieur même, enfin que les professionnels de santé en fait subissent à l'intérieur des milieux du soin. Et on a décidé, là c'est la première fois qu'on fait une action à Lyon, parce qu'on commence à être un petit groupe de l'antenne à Lyon. On a décidé de s'associer à cette mobilisation parce que on voit bien qu'on a de plus en plus de patients et patientes qui ont des difficultés à accéder aux soins, qu'on a bien conscience de la transphobie qui existe dans le milieu médical de manière générale et que nous, on a vraiment envie de pouvoir développer un discours qui va à l'encontre d'un discours dominant qu'on entend beaucoup dans les médias, y compris de professionnels de santé. Et nous, on a envie de se positionner comme des alliés et se dire, nous, on se forme, on essaie de, au maximum... être au courant des problématiques spécifiques aux personnes trans pour pouvoir y répondre et on essaie de porter ce discours-là et de pousser de plus en plus de soignants et soignantes aussi à s'informer et à se former correctement pour bien prendre en charge les personnes trans. On a une page Insta pour une meuf qu'on peut retrouver facilement. On a un site internet aussi où on peut retrouver nos prises de position, nos positions politiques. On a écrit une tribune justement pour défendre les droits des personnes trans et notamment l'importance d'avoir des soins de qualité. Voilà.
Ce sont les mêmes forces politiques qui parlent de protéger les enfants et qui ont voté contre l'arrêt des mutilations intersexes en 2020. Ce sont les mêmes qui en coulisses reconnaissent que leur projet concerne tous les âges et vise à interdire toute transition de genre et que se centrer sur les enfants n'est qu'une stratégie de communication. Ne soyons pas dupes. Les droits des enfants n'ont aucune importance pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est le contrôle sur nos corps et une société normative, hétéropatriarcale, avec des catégories de genre hermétiques et coercitives. Ce projet est absolument incompatible avec le féminisme. Les droits des personnes trans sont aussi des droits pour les personnes intersexes. Nous luttons ensemble depuis plus de 30 ans pour la liberté et l'autodétermination de toutes et nous continuerons.
À terre et non-binaire, c'est ensemble qu'il faut lutter, c'est ensemble qu'on va gagner. Les meufs, les trans, à terre et non-binaire, c'est ensemble qu'il faut lutter.
Aujourd'hui, avec Solidaire Informatique, Ron, on a voulu venir à la marche Riposte Trans Lyon parce que un tiers des agressions transphobes ont lieu au travail et donc on pense que les syndicats doivent prendre en charge, doivent défendre les personnes trans au quotidien et du coup on s'engage en tant que syndicat à défendre toutes les personnes trans qui subissent des discriminations au travail et on est même prêt à aller à la bagarre juridique avec des sous qui vont avec. Merci beaucoup.
Le vote de la loi au Sénat est prévu le 28 mai, donc mardi. Le Sénat étant à majorité LR, il est possible que cette loi passe, mais le gouvernement s'est d'ores et déjà engagé à être contre. Nous, on lâchera pas la pression, quoi qu'il se passe avec ce vote, quoi qu'il se passe après à l'Assemblée, on lâchera pas la pression contre ce projet de loi et pour de nouveaux droits.
Contre l'économie, le Gaza, à Nouméa, LGBTI, contre l'économie.
Il y aura une prochaine AG qui se fera le 1er juin, donc le week-end prochain. Le but, c'est de continuer le mouvement. C'est un appel à n'importe quelle association, collectif ou personne individuelle de se joindre à nous. Le but, c'est d'organiser un mouvement par et pour les personnes trans. Mais évidemment, tous les alliés, personnes intersexes, personnes lesbiennes, féministes, etc. sont invités à se joindre au mouvement. Le but, c'est que le mouvement s'organise tous et toutes ensemble et qu'on participe dans la rue, tous et toutes ensemble, à contrer ces projets de loi complètement transphobes et à obtenir de nouveaux droits.
Il y a un Instagram que vous pouvez suivre, riposte-trans-lyon, où il y aura toutes les informations pour cet AG et pour les prochaines mobilisations.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, c'est le Canu Info du lundi 27 mai. On vient d'entendre un petit reportage sur la manifestation Riposte Trans Lyonnaise de samedi. Et on continue cette émission avec notre interview de la semaine.
Alors comme on vous avait dit la semaine dernière, nous avons aujourd'hui plusieurs personnes sur le plateau. On va parler donc de la Kanaky. Alors on a Magdalena de l'association Survie et on a plusieurs camarades du collectif Solidarité Kanaky. On a plusieurs camarades Kanak et dont une camarade aussi du MKF, du mouvement Kanak en France. Alors, on va d'abord vous laisser vous présenter, en tout cas vos associations une par une, de manière assez courte, mais n'hésitez pas. Donc, on peut commencer par exemple par toi, Magdalena, pour présenter l'association Survie, et puis après, on présentera le collectif Solidarité Kanaki et le MKF.
Oui, donc bonjour, je suis Magdalena, je représente l'association Survie. Donc Survie, c'est une association qui est née en 1984 et on milite contre la France-Afrique et le néocolonialisme français. Et donc du coup, c'est à ce titre-là, en tant que l'organisation française, que nous soutenons le peuple kanak et sa lutte pour l'indépendance. Et donc nous, notre, on dit clairement non, la Kanaky n'appartient pas à l'État français.
Très bien, alors est-ce que quelqu'un peut nous présenter le collectif Solidarité Kanaky ? Faites un choix. À un moment, ou le MKF, le mouvement Kanak en France.
Donc, allez, moi je m'appelle Théoui, donc je suis membre du mouvement des Kanak en France, région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, c'est un mouvement que nous avons créé ici dans notre région pour pouvoir, voilà, suite à ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Mais à côté de ça, en fait, on était surtout sur, dans le cadre associatif. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a créé ce mouvement.
Et le collectif Solidarité Kanaky, quelqu'un veut en dire deux mots ou on passe à la suite, comme vous voulez? C'est bon, allez.
Eh ben, peut-être qu'on va repartir un peu de la situation actuelle, hein, du coup, qui a déclenché là plus de deux semaines de révolte insurrectionnelle. Alors, c'est-à-dire le parlons de la réforme du corps électoral. Est-ce que vous pouvez un peu nous redire en quoi elle consiste, cette réforme, et pourquoi elle soulève une telle révolte?
Vas-y.
Bonjour, je m'appelle Nimoy, je suis un militant aussi d'ici, qui vit ici en France et puis qui lutte aussi contre ce dégel et puis contre l'État colonial qui est ce système qui pollue les gens de chez nous au pays. Alors ce dégel, en fait, il a pour but juste de gonfler les rangs des loyalistes et de rendre minoritaire le peuple kanak sur cette terre. C'est tout. Voilà, c'est ce que... Moi, c'est mon résumé à moi.
Tu peux préciser ce que c'est les loyalistes?
Les loyalistes, c'est une partie... politiques qui sont en Nouvelle-Calédonie, mais qui font partie de Renaissance ici. C'est des macronistes, c'est tout.
Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu là ce qui s'est passé depuis trois semaines? Alors l'élément déclencheur, on reviendra un peu sur le contexte. Qu'est-ce qui s'est déroulé depuis donc deux trois semaines là, ce 14 mai où tout est parti un peu.
Alors bonjour, du coup, je m'appelle Jeanne, je fais partie du membre du mouvement des Kanaks de France. Alors du coup, l'insurrection des jeunes là, en fait, ce qui a, on va dire, embrasé la Nouvelle-Calédonie au jour d'aujourd'hui, c'est l'insurrection de la jeunesse Kanak, qui, en fait, c'est la police, en fait, qui les a, qui les a poussés en fait à bout pour que en fait ils se révoltent, et c'est comme ça que la jeunesse, en fait, elle a commencé à embraser en fait les différentes structures, mais pas tous, parce que en fait il y a une partie qui a été faite par la milice. Donc voilà.
Alors peut-être que pour essayer qu'on comprenne un petit peu, il y avait effectivement ce corps du dégel électoral, il y a un contexte un peu particulier, sociétal, des inégalités profondes. Déjà, est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces inégalités sociales, sociétales, très fortes, très présentes en Kanaky?
En fait, après les accords de Nouméa, il y a eu un plan Marshall qui disait qu'il fallait remettre de l'équilibre dans tout ce qui est emploi local, et remettre les locaux, c'est-à-dire les Kanaks et les autres ethnies aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les Kanaks qui sont mis en minorité, il y a aussi l'ethnie wallisienne et futunienne, tahitienne, enfin tout le monde, on dit Kanak, mais c'est beaucoup les Océaniens qui font un bloc, et de l'autre côté, on a les... on va pas dire Caldoches, parce que les Caldoches, ils sont très intégrés depuis les événements. Ils ont changé de fusil d'épaule, les Caldoches.
Alors les Caldoches, tu nous redis qui c'est, les Caldoches?
C'est les descendants de colons.
Okay.
Mais qui ont six générations déjà en Calédonie. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt les arrivistes d'il y a 20 ans, après les accords de Nouméa. Et c'est beaucoup eux qui foutent un peu la zizanie dans les quartiers sud, et qui le fait que les jeunes ont brûlé, c'est juste il y a c'est le cocotte minute qui a qui a explosé, quoi, parce que voilà, il y a ces emplois qui sont plus donnés à des gens qui arrivent de France et qui ont des postes déjà prédestinés, on va dire, parce qu'on a beaucoup aussi de jeunes. Moi, j'ai des frères et sœurs qui ont fait l'école en France pendant 5-6 ans, et quand ils sont rentrés, ils ont dû bifurquer sur quelque chose d'autre qui avait rien à voir avec les études qu'ils ont fait en métropole, hein, et qui avaient les compétences et puis qui étaient formés pour. Oui. Et donc c'est cela aussi qui a fait que les jeunes, aujourd'hui dans le quartier de Nouméa, mais tout ethnie confondue, parce que dedans ces jeunes aussi, il y a aussi des métropolitains qui sont là-haut depuis des générations et qui subissent aussi l'inégalité. Et puis il y a plus pour le quartier sud, c'est-à-dire Lanzvata, Bédicitron et tous ces quartiers où on dit c'est que des loyalistes. Et puis le reste dans les quartiers nord, c'est-à-dire les quartiers de Moraville, Tindu, Pierre Lanquette et Ducos, qui en ce moment ont brûlé pendant une semaine, qui sont ignorés totalement, hein. Que ce soit l'école sociale, l'emploi et tout ce qui suit le social. Quoi.
Donc, pour compléter un peu ce que le frère dit, en fait, il faut revenir en Nouvelle-Calédonie avec ce qui existe vraiment, comment elle est faite, notre société en Nouvelle-Calédonie, où il y a d'un côté l'espace tribal, ce qu'on appelle la tribu, il y a l'espace semi-urbain, et il y a l'espace urbain. Donc nous, par exemple, en venant ici, on s'expatrie en France, mais il y a déjà des premiers déplacements, c'est-à-dire que nous quittons nos tribus pour venir vivre dans l'espace urbain. Et toutes les inégalités sociales que nous vivons au jour d'aujourd'hui, ça vient de ça où nos parents sont venus s'installer dans l'espace urbain, dans la ville, mais en apportant aussi avec eux toute leur méconnaissance de cet espace-là, où ils ont reproduit leur vie à la tribu dans l'espace urbain. Et cette génération-là, on va dire ma génération à moi, j'ai 47 ans aujourd'hui, ma génération, parce que ces enfants-là, ce sont les enfants de ma génération. Moi, j'ai habité dans un quartier populaire, d'ailleurs ce quartier-là, qui est Moraville-Pierre Lanquette, qui est le quartier populaire d'où est partie cette révolte. Et c'est un quartier aussi où la lutte du peuple kanak s'est installée dans ce quartier. C'est-à-dire que voilà, il faut revenir en 1853 avec la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie et toute cette lutte en fait, parce que faut parler aussi, nous, qu'est-ce que nous revendiquons, c'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire comment la colonisation a désorganisé notre civilisation. On va parler de civilisation. Parce que la civilisation kanak, c'est quoi ? C'est une organisation avec des chefs, avec des... parce que nous sommes un individu qui est dans une famille, qui appartient à un clan, et le clan, il travaille par rapport à la chefferie. Et la colonisation est venue désorganiser toute cette civilisation et son organisation. Et aujourd'hui, toutes ces familles qui vont vers l'espace urbain, ils n'ont plus forcément ça avec eux, c'est-à-dire cette organisation qu'il y avait déjà à la tribu. Et tous ces Kanaks qui arrivent de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, parce que nous avons 8 régions, 8 régions, voilà, 8 terres. Pardon, 8 terres, et voilà, c'est cette. Et qui fait que, il y a les injustices après sociales, surtout dans les quartiers populaires.
Alors, peut-être qu'on peut justement revenir sur un élément de contexte historique qui est important à savoir, c'est que cette Nouvelle-Calédonie, la Kanaky, a toujours été considérée comme une colonie de peuplement par l'État colonial français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement un peu ce processus historique colonial pour essayer de rendre minoritaire la population océanienne kanak ?
Oui, effectivement, comme tu viens de dire, effectivement, c'était un projet de départ. Donc la France, elle s'installe à l'époque en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est comme ça, on va rébaptiser cette terre Nouvelle-Calédonie. Et donc en 1852, la France s'installe. Et donc 50, voilà. Et donc tout de suite après, il y a le projet colonial s'installe, c'est-à-dire comme tu viens de dire, le projet colonial de minoriser la population kanak. Donc là, l'objectif, c'est de faire en sorte, comme en Australie, comme en Canada, comme dans d'autres territoires, de faire en sorte que le kanak devient une population minoritaire et peut-être à terme puisse disparaître. Donc là, comment ça s'est mis en place ? Donc les populations autochtones ont été classées en tribus et cantonnées dans des réserves. Il y avait un code d'indigénat, donc pas droit de sortir de réserve ou sortir uniquement pour travailler.
Il y avait aussi toute cette, tous ces moments où les Kanaks ont été exposés dans les eaux coloniales, donc la fameuse exposition à Paris. Donc en fait, toute cette politique coloniale, elle va continuer tout au long du XXe siècle. La phrase qui peut être peut-être marquante, par exemple, en 1972, Pierre Messner, à l'époque le Premier ministre, il va déclarer « Sur cette terre, il faut faire du blanc ». Donc là, vraiment, on est encore dans les années 60, 70, et là, il y a à nouveau cette réaffirmation très forte de la politique coloniale. Donc aujourd'hui, les Kanaks représentent pas plus que 41% de la population. Donc on voit bien que cette politique, elle a... Là, je mets beaucoup de guillemets à porter le fruit. 21% des habitants sont d'origine européenne. Et deux tiers de la population de Kanaks vit à Nouméa, la capitale. Et donc, la plupart est européen. Donc, c'est ça qui explique notamment tous ces éléments de contexte que la camarade vient de partager. Et peut-être on peut préciser également les raisons pour lesquelles, pourquoi la France, elle s'accroche autant à ses projets coloniaux. Alors, il y a plusieurs enjeux. Donc premièrement, c'est l'idée de l'exploitation de la richesse. Le sol calédonien est extrêmement riche, donc on sait ou on ne sait pas, mais en tout cas c'est le nickel calédonien qui représente 25% des ressources mondiales. C'est la principale ressource minière de la France. Par ailleurs, grâce au domaine maritime calédonien, il y a une grande biodiversité. Donc on parle de la zone économique exclusive, donc c'est le poisson minerai. La France dispose de monopoles absolus d'exploration et d'exploitation dans cette zone-là. Cette zone maritime, elle est 4 fois supérieure à celle de la France métropolitaine. Donc, cela permet à la France d'être considérée comme la deuxième domaine maritime mondial. Par ailleurs, il y a également une base militaire française. Donc, c'est pour ça, grâce à cette base militaire, la France est présente dans le Pacifique. Elle entretient une base des 1450 militaires. Donc, c'est quelques enjeux que l'État français peut encore voir qui font qu'effectivement, voilà, on peut imaginer que la France va s'accrocher très, très fortement à cette colonie.
Et vous l'avez dit, là, les révoltes en cours, du coup, là, elles relancent, elles actualisent les luttes anticoloniales en Kanaky. Et moi, j'avais deux questions. C'est, est-ce que, d'une part, vous pouvez nous dire un peu les points communs et les différences avec les révoltes des années de 84 à 88? Et d'autre part, nous expliquer un peu c'est qui les forces en présence? Notamment, c'est quoi la différence entre le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le FLNKS? Et on parle beaucoup de la cellule de coordination des actions de terrain, le CCAT. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui sont ces acteurs et comment ils fonctionnent?
Je ne vais pas m'étaler beaucoup dessus parce que je ne suis pas trop dans la politique. Hein, je vais pas. Alors le FLNKS, c'est un mouvement indépendantiste kanak qui regroupe des petites composantes et qui viennent grouper et former le FLNKS en fait. Dans le FLNKS, vous avez beaucoup de composants, dont l'Union calédonienne, le PALIKA, le RDO. Il y a beaucoup de mouvements indépendantistes, hein, que ce soit Kanak ou non-Kanak aussi. Parce qu'on a aussi un parti là-haut qui est composé de Waldiens et Futuniens et qui font partie du FLNKS. Oui, c'est juste une composante. C'est un groupe qui regroupe des composants indépendantistes. Appel CCAT, c'est un mouvement qui a été créé récemment, hein, le courant de l'année. Je pense qu'il a 4 ou 5 mois d'existence et il sert simplement à être sur le terrain. C'est eux qui coordonnent les actions de terrain dont ils portent bien leur nom. Et rien de plus, ils ne font pas de politique. Ils ne sont même pas reconnus, je crois, au niveau du gouvernement et du Congrès. C'est un comité
collectif.
Voilà, un collectif qui agit sur le terrain au nom du FLNKS, hein. Voilà.
Alors peut-être on aimerait bien aussi que vous reveniez un petit peu quand même rapidement, hein, sur ce qui a amené à ces référendums, c'est-à-dire qu'il y a eu deux accords. Alors les médias en ont beaucoup parlé, mais pas forcément bien d'ailleurs. Ces émeutes quasi insurrectionnelles des années 80 qui ont abouti à ces accords et qui ont débouché sur ces trois référendums. Peut-être revenir rapidement dessus parce que ça nous permet de comprendre un peu plus en quoi le dégel du corps électoral est une nouvelle attaque coloniale de l'État français.
Donc, en fait, ça fait suite aux événements des années 80. Donc, ça s'est étalé de, on va dire, 83 jusqu'à 88, où ça a atteint vraiment le summum avec ce qui s'est passé à la grotte d'Ouvéa. Et suite à la grotte d'Ouvéa, bon, il y a eu les accords de Matignon.
Je pense qu'il faut rappeler peut-être en deux mots ce que c'est la grotte.
Donc la grotte d'Ouvéa, c'est quand il y a eu l'attaque à la gendarmerie de Fayaoué, et donc il y a eu 19 militants kanaks qui sont morts, plus 4 gendarmes, et suite à cette révolte, on va dire, et il y a eu la signature des accords de Matignon. Et à la suite des accords de Matignon, on a évolué vers les accords de Nouméa, où il fallait justement le rééquilibrage entre les trois provinces. Les accords de Matignon ont créé les trois provinces, la province nord, la province des îles et la province sud. Et c'est la province sud qui a brûlé en ce moment. Les accords de Nouméa est venu mettre en priorité, le dispositif était le Kanak au centre du dispositif, avec le rééquilibrage notamment dans les trois provinces. Et après, c'est mon avis, je ne dis pas que c'est exactement ça, c'est que qu'est-ce que la révolte des jeunes vient nous dire, c'est que en fait, dans le fond, le Kanak n'était pas au centre du dispositif, parce qu'un jeune qui est bien, qui est épanoui, ne va pas vers la révolte. C'est que quelque part, on a oublié cette jeunesse-là. Et de mon point de vue, donc voilà ce que je peux dire. Si vous pouvez,
On peut aussi peut-être préciser que ces luttes des années 80, ils ont aussi amené ces deux victoires majeures. C'est aussi le fait qu'à partir de ce moment, la France, elle était obligée, en tout cas, il y avait cette obligation qui a été faite à la France d'inscrire la Nouvelle-Calédonie sur le territoire à décoloniser auprès des Nations Unies. Et donc ça, c'est effectivement une victoire importante. Et aussi, aller plus loin, de commencer officiellement le processus, les mesures de décolonisation via ces accords officiels. Donc, je pense qu'effectivement...
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vraiment c'est-à-dire que dans la lutte du peuple kanak, on va vers la décolonisation. Mmh. Les accords de Nouméa nous amènent vers la décolonisation et la souveraineté du peuple kanak. Et or, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est que ces 36 ans de paix, eh bien, ce n'est pas 36 ans de paix qui nous amène vers notre souveraineté. C'est 36 ans de paix qui nous recolonise, qui revient en force. Moi, je prends juste un exemple de la vie de tous les jours, ne serait-ce que pour nos langues kanak, parce que nous en avons 28 langues kanak. Et moi, de ce que je constate, de plus en plus de jeunes et d'enfants ne parlent plus leur langue kanak. Rien que ça, c'est aussi parce que moi, qui suis née en 76, je parle deux langues kanak. Et cette génération qui vient, et ceux qui viennent juste derrière moi, ne parlent plus ces langues kanak. Ce qui nous démontre que quelque part, où justement quand on a mis le kanak au centre du dispositif, on a mis aussi les langues kanak. Et comment ça se fait qu'en 2024, cette jeunesse-là justement qui est en révolte, ne parle pas les langues kanak aussi? Parce que ça questionne en fait, ça questionne qu'ils ne sont ni dans le système capitaliste et ils ne sont ni dans la culture kanak. Donc c'est un peu ça la réflexion, que peut-être que ces accords de paix, eh ben c'est pas dans le fond, c'est une recolonisation en force et la férocité du colonialisme et du capitalisme.
Je vais rajouter juste un truc sur le dégel, la question qui était posée. En fait, le dégel électoral aujourd'hui, c'est juste une manipulation des accords, ils piétinent les accords pour pouvoir intégrer une partie de la population qui sont arrivées là-haut après 98 dans les élections provinciaux et tout ça. En fait, c'est juste une manière de repeupler le rang là-haut. C'est pas nous, on voit pas ça comme du... Il faut pas que les gens croient que c'est du racisme, hein. Ceux qui sont derrière la radio, qui écoutent ce qu'on dit. Il faut aussi se mettre à notre place, que si ça continue, nous sommes viés à ne plus avoir de droits sur nos terres. C'est comme si demain, on parle de la Corse, de la Bretagne, de l'Alsace, c'est un peu le même, sauf que nous, c'est un niveau au-dessus, parce qu'on est un archipel avec des composantes, des îles et des provinces. Donc voilà, le dégel électoral, en ce moment, ce qui se passe, qui a été voté à l'Assemblée et au Sénat, c'est tout simplement un passage en force de l'État avec la complicité des loyalistes en Calédonie, dont Mme Baquet et M. Mesdoff. Voilà.
Et en réaction, est-ce qu'on peut rappeler un peu c'est quoi la réponse catastrophique du gouvernement de Macron et de l'arsenal ultra répressif qu'il a mobilisé? Et du coup, ça donne quoi comme perspective selon vous là pour la suite immédiate de ces prochains jours, semaines, ces prochains mois? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi personnellement, ça nous pousse à nous organiser. Parce que moi, de ma lecture, le président revient nous dire en force que la Nouvelle-Calédonie restera française. Donc, ça veut dire aussi comment nous nous organisons pour continuer notre avancée aussi. Parce que vraiment, l'objectif, c'est d'aller vers la décolonisation et aller vers notre souveraineté. Donc voilà, de mon point de vue.
Est-ce que la venue de Macron-Darmanin là sur le territoire historique, c'est pas un peu donner un blanc-seing aux actuelles milices loyalistes qui dirigent quand même clairement les territoires?
Totalement.
Oui, c'est ça.
Totalement.
C'est ça.
Oui. Totalement, c'est ça.
C'est tout à fait ça.
Et puis bon, il a quand même aussi renvoyé l'armée, le GIGN. On est à au moins 7 morts, je crois, de
officiel, mais.
Je voudrais du coup compléter. Alors officiellement dans les infos, en fait ils disent qu'il y a 7 morts, mais au jour d'aujourd'hui on est à 43. Et ça c'est les 43 qui pour ce qui a été confirmé par notre réseau. Et sinon il y a encore il y a des personnes encore qui sont portées disparues et aujourd'hui on n'a pas encore retrouvé des corps, mais en tout cas voilà, on en est à 43 par des sources quoi. Mais sinon le 7 c'est vraiment pour la désinformation.
Ben, je vais juste compléter ce qu'a dit ma collègue. En fait il faut comprendre qu'en Calédonie il y a une restriction d'information, c'est-à-dire que rien ne sort de là-haut sur les médias par exemple indépendants ou qui sont pas sous la coupelle du gouvernement macroniste. Donc faut comprendre que là-haut il y a beaucoup de choses qui sont cachées, comme vous avez pu le constater il y a 3-4 jours où il y a eu le blocage de TikTok, où la ligne des droits de l'homme a redemandé le pourquoi du comment. Donc en Calédonie il y a vraiment une restriction d'information. Tout le monde n'est pas au courant de ce qui vraiment se passe là-haut. Et le nombre de décès qu'il y a, parce que via les réseaux ou nos proches, tout le monde a un proche qui travaille à la morgue ou à l'hôpital, ou dans les ambulanciers, ou dans le secteur médical. Et on est à plus de 10 morts. Après, c'est à confirmer. Hein, c'est des choses qu'on ne va pas s'étaler dessus, parce que voilà, c'est délicat.
Oui. Alors, peut-être parce qu'on va bientôt devoir terminer cette interview, tu voulais rajouter quelque chose? Comment est-ce que, là, nous, on peut, là, sur notre territoire français métropolitain, vous soutenir? Est-ce qu'il y a des prochains rassemblements qui sont prévus à Lyon, par exemple, dans les jours, dans les semaines à venir? Peut-être vous pouvez déjà nous dire un peu ça?
Et aussi sur comment est-ce qu'on peut suivre les informations?
Et comment justement on peut suivre les vraies informations?
Alors, notre prochain rendez-vous est le 3 juin à la Bourse de Travail à partir de 18h30. Donc, c'est l'ensemble de collectifs qui soutient la cause des Kanaks, donc au sein de collectif Solidarité Kanak. Et puis, pour les prochaines dates, on va communiquer via réseaux sociaux ou d'autres médias.
Donc, il faut suivre Survie, la plateforme Survie.
Oui, et vous pouvez également aussi, en tout cas en ce qui concerne la responsabilité de l'État français dans cette histoire, évidemment, vous pouvez suivre l'association Survie et notre site internet.
Eh bien, écoutez, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup pour vos témoignages. On continuera évidemment, nous, à suivre de près ce qui se passe là-bas et puis on restera en contact avec vous. Si tu veux préciser une dernière chose,
je veux juste amener sur une petite précision.
Vas-y.
Il faut que les gens de l'autre côté de l'Indio ne croient pas qu'on est anti-français. On est anti-gouvernement, voilà, anti-État colonial. Parce qu'il faut préciser, parce que les gens ne connaissent pas. Moi, j'ai eu ces derniers jours des questions un peu de ce genre-là. Donc, je veux préciser que chez nous, on n'est pas anti-français, ni anti-blanc, ni anti-javanais ou je ne sais pas quoi. Non, on est juste anti-État colonial et surtout aujourd'hui avec ce gouvernement de pacotille.
Et du coup, pour compléter, j'ai envie de dire que nous, on est un pays d'accueil. On a toujours accueilli les gens. Donc, c'est pas tout ce qu'ils racontent dans les réseaux par rapport... Parce que les loyalistes, en fait, essayent de faire passer comme message, ce n'est pas ça, quoi. Nous, on n'est pas dans ce dans cette optique-là. Au contraire, on est là, on a envie de construire ensemble.
Et bon, on vous remercie.
Merci beaucoup.
Merci.
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 Merci à votre
pour terminer l'émission, on va passer 2 minutes de reportage justement sur le rassemblement qui a eu lieu jeudi dernier en soutien à la Kanaky.
Et on finira cette émission comme ça.
C'est parti. Bonjour à tous. La mobilisation en France a eu lieu grâce à l'action du collectif Solidarité Kanaky, qui regroupe le mouvement des jeunes Kanaks en France, des représentants en France de l'Union syndicale, des travailleurs Kanaks et des exploités.
Et tout ce qui se passe dans notre pays, c'est quelque chose qui nous touche. C'est des changements qu'on a demandé à certaines personnes depuis longtemps. C'est dommage de devoir en arriver là pour justement pouvoir demander ces changements et qu'il y ait enfin du mouvement. On a perdu beaucoup de nos frères dans tout ce qui s'est passé. Des deux côtés, il y a des pertes et tout le monde est triste. Donc nous, on se sent un peu impuissants en France. C'était un moyen de pouvoir montrer que même à 22 000 km de notre île, on pense aux nôtres, on pense aux gens de chez nous et on est avec eux de tout cœur.
Comment toi tu analyses la situation là, le fait que Macron il soit allé aujourd'hui sur l'île, c'est un peu les provocations qu'il a qu'il balance, comme quoi il va pas faire de retour en arrière et tout, c'est quoi toi ton analyse?
J'ai jamais eu très grosse confiance en Macron, donc quand il a dit qu'il allait arriver en Calédonie, honnêtement j'avais plus espoir que le fait qu'un président vienne en Calédonie fasse changer les choses plutôt que Macron fasse changer les choses.
La Nouvelle-Calédonie est toujours une colonie française. C'est d'abord une réalité matérielle et une continuité historique. Occupation militaire, politique d'installation de colons, spoliation des terres, racisme, massacres et violences diverses qui ont jalonné ces 171 années d'occupation.
C'est le peuple qu'il faut écouter parce que c'est lui qui souffre le plus. C'est facile de faire des réclamations quand on est assis sur un siège, mais on a des gens qui sont sur le terrain et qui souffrent de tout ce qui se passe. Il faut quand même dire quelque chose, c'est ne faut pas mettre non plus tous les caldoches dans le même cercle. Il y a des gens qui ont juste peur et qui protègent leur voisinage. Il ne faut pas les confondre avec la milice. Il y a une milice qui roule. Il y a des vidéos où on voit des gens de cette milice justement. Certains vont la nier. L'existence, elle est réelle. Par rapport à tout ce qui se passe, il faut juste faire attention à chacun et faire en sorte que tout le monde en sorte vivant.
Et du coup, ouais, pour toi, c'est quoi les revendications là, principales et immédiates que toi, t'attends quoi pour la suite?
Que le peuple kanak soit mis en avant, peu importe ce que disent les politiciens, peu importe ce que disent Metzdorf quand ils passent à l'Assemblée, etc. Il y a un peuple premier, le peuple kanak, c'est le peuple autochtone, c'est lui qui a été premier en pays. Il faut qu'ils comprennent que nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'il n'y ait plus de blancs, qu'il n'y ait plus de wallis, qu'il n'y ait plus de tout ça. C'est juste que, à l'image, je vais prendre par exemple la Nouvelle-Zélande, que la Nouvelle-Calédonie et la France, enfin la Nouvelle-Calédonie arrive de faire du peuple et des cultures kanak sont fiers de lance, et qu'on puisse être fiers de nous et que les gens reconnaissent et arrivent à être fiers de nous également.
Il est fini, le temps des colonies, solidarité, Kanaky, il est fini, le temps des colonies.